Dom Théo. Dom Théo, un dialogue théologique avec les dominicains de Toulouse.
Frère Édouard, bonjour.
Bonjour, frère Philippe.
Nous en sommes à l'article 541 du catéchisme. Le royaume de Dieu est tout proche. L'article qui précède, la section qui précède, c'est la tentation de Jésus. Nous avons parlé des tentations de Jésus. Là, le royaume de Dieu est tout proche. Nous sommes donc dans la vie publique de Jésus. C'est mystère lumineux, comme le pape Saint Jean-Paul II les a posés. Le royaume de Dieu est tout proche, ça m'évoque un certain nombre de questions, de réflexions, ou de souvenirs. D'abord, souvent, il me semble que bien des chrétiens pensent que ce qui est central dans l'Évangile, c'est l'amour du Christ, l'amour de Dieu pour nous, et cette réponse retour de l'amour pour Dieu. Mais je pense que certains se disent c'est ce dont Jésus parle le plus. Quand on regarde bien, ce dont Jésus parle le plus, le cœur de sa prédication, c'est le royaume de Dieu. La première réflexion que je ferai, c'est que, évidemment, ça n'invalide pas le fait que l'amour est central, la charité est centrale dans la... Dans notre foi, mais en tout cas la prédication de Jésus, ça va être celle de la prédication du royaume. Le royaume de Dieu est arrivé. La deuxième chose, c'est qu'il me semble que donc le royaume de Dieu est souvent abordé par Jésus en termes de avec des paraboles, et ces paraboles, autant que si je ne me trompe pas, Le royaume de Dieu n'est jamais quelque chose qui se construit. C'est pas ces images-là de la construction. Il y a une espèce de vie qui se développe, mais jamais en termes de construction. Nous aurions tendance à penser à un royaume, à un territoire et quelque chose qu'on bâtit dessus. C'est pas tellement l'image qui est utilisée, me semble-t-il. Tu me diras si je me trompe là-dessus. Et la dernière chose, du coup, ça conduit à dire que le royaume qui pour nous est peut-être une notion un peu désuète, en fait, parce que les royaumes, ça ne représente plus grand-chose pour nous aujourd'hui. Ça laisse, ça nous permet de mieux nous rendre compte que nous nous situons là dans une réalité qui est d'abord surnaturelle. En même temps, peut-être qu'à le dire comme ça, il ne faudrait pas la rendre totalement abstraite, puisque c'est au cœur de la prédication de Jésus, et que Jésus l'en parle de manière assez concrète par le biais des paraboles.
Exactement. Oui, c'est tout à fait juste. Dans les synoptiques, Jésus donne une annonce comme la bonne nouvelle, une annonce du royaume. Les temps sont accomplis et le royaume de Dieu est tout proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Donc, dans les synoptiques, c'est vraiment l'axe central de cette toute première prédication de Jésus autour du royaume de Dieu. Et il est vrai que Saint Jean se place toujours en complémentaire des synoptiques. Et c'est là où l'amour, je dirais, se manifeste d'une manière si forte. Et dans la première lettre de Saint Jean, cette annonce extraordinaire, Dieu est amour. Donc, comme tu le dis très bien, il n'y a aucune opposition, évidemment, puisque le royaume de Dieu, c'est un royaume d'amour, puisque Dieu est amour. Et donc, il n'y a pas d'opposition, et l'Église est une réalité concrète. Elle a une institution, elle n'est pas seulement au ciel, elle n'est pas seulement une réalité surnaturelle, elle est aussi une réalité incarnée, comme Jésus a accepté de prendre un corps. L'Église est à son corps et elle se manifeste visiblement. Alors cela, bien sûr, n'exclut pas du coup des difficultés, puisque elle a dans son sein des pécheurs et l'Église est dite dans l'Écriture sainte et immaculée. Et on pourrait imaginer des tensions entre cette affirmation de l'Écriture dans l'Épître aux Éphésiens que l'Église est sainte et immaculée, d'autre part, que nous constatons, c'est expérimentiel, on ne peut que le dire et le constater, qu'il y a des pécheurs au sein de l'Église. Alors comment faire converger les deux? Il y a cette parole terrible de Loisy qui disait « Le Christ a annoncé le royaume ». Et c'est l'Église qui est venue, c'est une sorte d'échec que Jésus aurait, comme un prophète, raté finalement la réussite de sa mission, comme dans l'orbite de tous les autres prophètes qui sont venus sur la terre, qui ont été contestés, rejetés. Donc le royaume de Dieu a été annoncé, mais c'est l'Église qui est venue constituée de pécheurs. Et on pourrait, à partir de là, eh bien, avoir une certaine distance, justifier une certaine distance par rapport à l'Église, mais ça n'est certainement pas la prédication primitive de saint Paul, qui rappelle que Jésus est la tête par rapport au corps qu'est son Église, qu'il est l'époux par rapport à l'épouse qu'est l'Église. Et il y a bien sûr une purification de chacun, puisque, comme dit le texte que je viens de citer dans l'Écriture, les temps sont accomplis, le royaume de Dieu est tout proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ceux qui s'inscrivent dans l'Église sont appelés pour y demeurer à la conversion, au repentir des œuvres mauvaises. Et donc l'Église est, de par ses membres, comme on dira au cours des siècles, semper purificanda, et le Concile Vatican II le répétera dans Ulitatis Redintegratio, l'Église est sans cesse à devoir se purifier dans ses membres, et non pas dans sa tête, puisque c'est Jésus qui est la tête et qui est parfaitement saint. Il a épousé notre condition humaine, comme dit plusieurs fois l'Écriture, sans le péché. Et nous comprenons qu'il y a tout un travail de transformation, et le catéchisme numéro 541 dit bien que la volonté du Père, c'est d'élever les hommes à la communion de la vie divine. Il le fait en rassemblant les hommes autour de son Fils Jésus-Christ, d'où l'expression « au royaume du Christ », souvent, qui est un équivalent de royaume de Dieu, royaume du Christ, qui est finalement un synonyme par rapport à royaume de Dieu, mais plus précis, puisque c'est l'Église finalement qui est le royaume du Christ, ce qu'il a institué en instituant les 12, en instituant des sacrements, en transmettant un enseignement, et qu'il demande aux apôtres de répandre sur la terre. La finale de Matthieu, chapitre 28, est très claire. Allez, et de toutes les nations faites des disciples, enseignant ce que je vous ai transmis. Et donc, il y a ces rapports très concrets, je dirais, dans l'enracinement visible et invisible de cette Église, dont on dit avec juste raison qu'elle est le germe et le commencement du royaume de Dieu. C'est-à-dire, elle n'est pas encore le royaume de Dieu du ciel achevé, mais elle en est déjà le germe. Il y a tous les éléments déjà de vie divine qui lui sont donnés, avec les fragilités humaines et malheureusement les tensions et parfois les injustices, mais le germe est déjà donné. Donc il faut voir un peu ce royaume de Dieu, comme tu disais très bien, non pas comme une construction, comme si on pouvait construire quelque chose, mais comme un germe qui est mis dans une bonne terre, finalement, et qui doit se lever, qui doit grandir, qui doit pousser, dans la mesure où on le laisse grandir et pousser en lui donnant l'eau nécessaire, le soleil nécessaire, les engrais nécessaires, pour que ce royaume, finalement, prenne toute la place. Et les paraboles de Jésus ont tout à fait cette image du grain de sénévé qui est tout petit, puis finalement grandit, il contient en lui les oiseaux du ciel qui viennent se reposer sur ses branches. C'est magnifique. Et donc, on voit cette idée de croissance, de puissance, cette idée de quelque chose qui est donné a priori, mais dans lequel l'homme est sollicité pour que la croissance ne soit pas empêchée.
Ben, oui, c'est ça, il y a une vie qui se déploie. Alors, évidemment, tu citais, et ça va avec l'image que tu prenais, donc le germe. Donc, c'est vrai que le grain de sénévé qui devient un grand arbre, et les oiseaux vont dans les branches. Il y a quelque chose d'une espèce de vie qui prend forme, qui se déploie. Et je suis toujours frappé de voir que, alors, donc, comme je le disais, et tu me confirmais,
il n'y a pas le royaume de Dieu est comme un chantier de tours qu'on met en place, etc. C'est pas. Mais le royaume de Dieu est semblable à 10 jeunes filles, 5 étaient sages, 5 étaient folles. Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui avait une vigne, etc. Enfin, c'est pas le royaume de Dieu et 10 jeunes filles ou est un homme, mais semblable à un homme qui voilà. Fait quelque chose
une
et
qui action,
une action est en train de se mettre en place. Ouais. Et oui. C'est étonnant. Hein. Au début, c'est étonnant parce que on ne prendrait pas cette image-là. Et d'ailleurs, on entend beaucoup de gens qui vont parler de la construction du royaume parce que pour nous le royaume, l'idée que nous en faisons d'un royaume, elle est assez imprécise au fond, comme je le disais au départ. Mais on essaie d'y accrocher quelque chose. C'est un peu le conte de fées, d'ailleurs, presque.
Oui, le royaume de Dieu est un mot qui suscite aussitôt une idée de quelque chose de magnifique, parce qu'on voit très bien une réalité très belle, finalement, comme cela a été prêché dans les évangiles, et qui fait rêver un petit peu. Mais on a besoin aussi un peu de rêve pour que l'espérance, je dirais, s'enracine dans quelque chose qui n'est pas encore là, mais qui doit advenir. Et nous sommes sûrs que cette promesse adviendra, puisque dans notre compréhension de l'espérance, nous sommes persuadés que ce que Dieu promet, il le réalise. C'est-à-dire, c'est pas seulement, je dirais, un conte de fées dans lequel on sait bien que les personnages sont irréels et que on peut tout reprendre à zéro. Les paraboles que Jésus donne, nous les donne comme image de cette action divine et qui est dans le fond des cœurs et qui se réalise, qui avance, qui grandit, qui pousse, qui donne la possibilité vraiment de réaliser des belles choses pour Dieu. Et ce sont ces belles choses pour Dieu qui doivent nous aider sans cesse à renouer avec l'espérance de toute l'Église.
Merci, frère Edouard.